Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour. Ils risquent leur vie pour sauver celle de leurs concitoyens. Eux, ce sont les sapeurs-pompiers de la Loire. Et après le contrôleur général Alain Maillet, le mois dernier, vous pourrez entendre dans quelques instants Marianne Darfeuil, première adjointe au maire de Feur, mais aussi première vice-présidente du SDIS, service d'incendie et de secours de la Loire. Elle nous dira comment, pour elle, ces hommes et ces femmes sapeurs-pompiers de la Loire sont d'abord des hommes et des femmes de passion. Et puis, pour sa bouche dans la Loire, eh bien, nous rencontrerons Amélie Gacon, qui a inventé et créé la marque Tonnerre de Belt au sein de l'entreprise des tissages de Charlieu, LTC, c'est au nord de Roanne. On se dirigera ensuite, et en cette saison, à quelques jours des fêtes, eh bien, ma foi, c'est une suggestion que je vous fais, à Saint-Étienne-le-Molard, c'est Sandrine Gibourou qui a créé son élevage de pigeonneaux. Et elle nous explique comment cet élevage est fait de façon extrêmement respectueuse des animaux et comment pour elle aussi c'est devenu une sorte de passion, un plat peut-être à mettre dans vos assiettes cette fin d'année. Et puis on terminera par une suggestion en particulier pour prendre l'air et le grand air dans notre département. C'est Loire Mag, le podcast sur RCF Saint-Étienne. À la mise en onde, Clément Monsignor.
Loire Mag, le podcast, au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Je vous le disais il y a quelques instants, Marianne Darfeuil est première adjointe au maire de Feur et également conseillère départementale en charge de la maîtrise de la Loire, des écoles de musique et de l'enseignement artistique. Mais elle est aussi première vice-présidente du SDIS, service d'incendie et de secours de la Loire. Avec elle, après le contrôleur général Alain Maillet le mois dernier, nous reviendrons donc sur la vie en particulier des sapeurs-pompiers volontaires de la Loire. Alors avoir des responsabilités dans le domaine de la vie artistique du département et au SDIS, cela peut paraître une sorte de grand écart. Mais pour Marianne Darfeuil, ce n'est pas le cas parce que pour elle, ce sont des métiers d'hommes et de femmes passionnés.
Loire Mag, le dossier.
C'est des publics qui ne sont pas trop loin non plus parce que ce soit dans l'artistique ou dans les pompiers, c'est des métiers ou des passions qui suscitent la vocation et un engagement. Donc on a affaire à des gens, quelque part, à des gens de cœur. Et donc c'est des choses qui se retrouvent un petit peu quand même.
On va reparler de cette passion, notamment avec les pompiers volontaires. Mais revenons quand même d'abord sur ce qu'est la départementalisation par rapport au SDIS. Je rappelle, le service d'incendie et de secours, donc en l'occurrence de la Loire. Qu'est-ce que c'est que cette départementalisation, Marianne Darfeuil ?
Pour refaire un peu l'histoire, en 1996, une loi a imposé à chaque département de créer un établissement public dénommé SDIS, donc Service départemental d'incendie et de secours. À l'époque, avant 1996, donc les services d'incendie et de secours étaient gérés par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. La loi a imposé de transférer ces compétences au SDIS, à cet établissement public. Pourquoi ils ont demandé ça ? Parce que il semblait qu'à l'époque, il y avait une certaine inéquité sur le territoire. Chaque commune ne pouvait pas servir son territoire de la même façon en termes de ressources humaines, en termes de technicité, de formation, de communication, d'organisation. Donc tout ça a permis la départementalisation d'organiser et de structurer le service départemental d'incendie et de secours. Alors au sein de la Loire, ça s'est fait en plusieurs étapes, janvier 2000, septembre 2000 et en janvier 2001.
En 2020, on a 20 ans de recul. Cette organisation a prouvé son efficacité et du coup plus d'équité entre les communes par rapport aux services apportés par le SDIS.
Tout à fait. Alors ça a permis de structurer, d'organiser, de professionnaliser les sapeurs-pompiers. Entre autres, les sapeurs-pompiers volontaires donc suivent des formations très denses, très riches, pour pouvoir répondre aux demandes et être le plus professionnel possible, même s'ils sont des volontaires. Il faut savoir que sur le territoire, nous avons 2300 sapeurs-pompiers volontaires et 600 professionnels.
Comment est-ce que ça s'organise, cela, lorsqu'un jeune décide de devenir pompier volontaire, un jeune ou un moins jeune, sans doute, et qu'il se propose il faut bien que, notamment, il puisse continuer à exercer son métier. Comment est-ce que cela peut s'organiser pour quelqu'un qui, par exemple, nous entendrait aujourd'hui et dirait « moi, ça m'intéresserait, mais je ne sais pas comment m'y prendre dans l'organisation de ma vie ».
Alors déjà, dans un premier temps, il faut qu'il pousse la porte de la caserne la plus proche de chez lui, parce qu'il faut qu'il soit très proche de sa caserne pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Il prend contact avec le chef de centre, on va le former. Alors il y a plusieurs sortes de formations, hein, mais entre autres je pense aux jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui on en a 250 dans la Loire, répartis donc sur tout le territoire.
Quand vous dites jeunes, ils ont quel âge ?
Ils ont entre 11 et 18 ans.
Ça peut commencer très jeune,
très
en fait.
Jeune, oui. Et en fait, c'est un peu susciter des vocations. Peut-être qu'à un moment, ils cherchent à se sensibiliser à la culture de la sécurité civile, mais ils ne savent pas comment faire. Donc nous, on les forme pour ça. Et puis peut-être après, il aura la vocation de devenir sapeur-pompier, soit volontaire sur sa commune, soit peut-être professionnel.
Je parlais du fait qu'ils puissent être obligés de quitter leur lieu de travail pour se rendre sur le lieu d'un sinistre.
Oui.
Comment ça se passe avec les entreprises ?
Alors les entreprises, elles jouent le jeu. Bien sûr, le sapeur-pompier volontaire, ça part à son responsable de sa volonté d'assurer le service volontaire auprès du SDIS. Et puis en principe, les entreprises répondent favorablement. Et les communes aussi, puisque moi, à Feur, où je suis élue, nous avons 4 sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont alertés par des bips et puis à ce moment-là, ils quittent leur emploi et ils se rendent directement à la caserne pour pouvoir répondre aux besoins qui se présentent.
Quand vous dites que les entreprises jouent le jeu, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le salarié a pu en parler évidemment d'abord avec le dirigeant et qu'il n'est pas, par exemple, devant la nécessité de rattraper des heures.
Après, ça c'est des accords internes avec les entreprises. Bien entendu, il y a certaines entreprises où l'employé ne pourra pas quitter son poste. Quand il travaille à la chaîne, où il y a des métiers peut-être où ils ne peuvent pas quitter leur poste. Le volontaire ne pourra pas assumer ses missions de pompier. Mais il y a d'autres entreprises où c'est un petit peu plus facile et l'entreprise l'autorise. Il n'y a pas de souci.
Vous dites, Marianne Darfeuille, qu'il y a 4 pompiers volontaires sur Feur.
Oui.
Vous les connaissez ?
Bien sûr. Je les côtoie régulièrement, donc on se voit bien entendu au sein de la ville de Feur, et puis je les rencontre aussi à la caserne, parce que je suis moi aussi amenée à pousser la porte de la caserne. Alors on organise des réunions, bien entendu, et puis aussi au moment des cérémonies.
Au point de vue budget, c'est le département qui est l'employeur.
C'est le SDIS en fait, c'est l'établissement public qui est l'employeur. Faut savoir que le service départemental d'incendie et de secours est dirigé donc par un directeur qui, ici dans la Loire, est le contrôleur général Alain Maillet. Et le SDIS est aussi administré par un conseil d'administration dont le président est le président du département. Et donc le conseil d'administration, c'est lui qui gère les moyens humains et techniques de l'établissement, qui rémunère ses sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. C'est des budgets conséquents, puisque ici dans la Loire, c'est 61 millions d'euros de budget de fonctionnement et pratiquement 10 millions d'euros de budget d'investissement, qui permet aussi l'achat de matériel, de véhicules, la sécurisation des bâtiments et puis aussi la construction, la rénovation des casernes.
Juste un petit mot là-dessus à propos des casernes. Autrefois, les pompiers, notamment professionnels, habitaient sur place dans les casernes. C'est toujours le cas ?
Les volontaires habitent chez eux. On leur demande simplement de ne pas être trop loin de la caserne. Lorsqu'ils sont bipés, il faut qu'ils arrivent rapidement pour prendre les véhicules et partir, se changer et partir. Pour les professionnels, c'est différent. On va dire qu'ils n'habitent pas dans la caserne, mais ils ont des chambres. Ils sont obligés de rester dans la caserne pour assurer le service la nuit ou la journée. Donc ils ont des roulements. Il y a plusieurs casernes sur Saint-Étienne qui hébergent des professionnels. Il y en a une à Montbrison et une à Rouen.
Pour terminer cet entretien, Marianne Darfeuil, vous parliez en commençant de passion de la part de ceux qui s'engagent au service de leurs concitoyens au SDIS, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Est-ce qu'il y a des actes ou des attitudes ou des événements qui vous ont particulièrement marqué depuis que vous avez cette responsabilité au département de la Loire ?
Des actes, des attitudes. Avec un petit peu de recul, je dirais que quand j'ai découvert l'univers du service départemental d'incendie et de secours, j'ai rencontré des hommes qui font, ou des femmes qui font preuve vraiment d'abnégation, qui sont disponibles, c'est une grande famille en fait, le SDIS, et toujours très respectueux, bienveillants, qui répondent présents quand on a besoin d'eux. Alors moi, dans ma commune plus particulièrement, je l'ai vécu, cette aventure, je dirais, en 2008, quand il y a eu les inondations. Le centre d'incendie et de secours, entre autres de la ville de Feur, puisque nous avons une caserne à Feur, vraiment a pris les choses en main et on s'est senti soutenu et épaulé par cet établissement public. Ils étaient présents tout le temps, jour et nuit, si on avait besoin. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a marqué personnellement.
RCF.
L'entreprise Les Tissages de Charlieu, LTC au nord de Rouen, propose trois marques nées de la créativité de certains de ses salariés. Ce sont des intra-entreprises. Et parmi ces marques, la ceinture à boucle amovible Tonnerre de Belt inventée par Amélie Gacon. Récit de l'aventure par Amélie elle-même.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Il y a 5 ans, j'ai eu l'idée de créer cette marque et j'ai soumis l'idée à Éric Boël, mon patron de l'époque, de savoir s'il voulait bien qu'on fasse cette aventure ensemble. Il m'a dit oui. Donc du coup, c'est pour ça que c'est une marque en fait, qui appartient au siège de Charlieu, mais qui a sa propre vie.
Vous dites vous étiez dans l'entreprise. Quelques mots sur cet état de fait. L'étissage de Charlieu, c'est sans doute une des rares entreprises, enfin moi en tout cas, j'en connais pas beaucoup, au sein de laquelle il existe d'autres entreprises, notamment liées à la création, en relation avec le tissu, bien entendu, sont des intra-entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela fonctionne, Amélie Gacon ?
Bien, en fait, Éric Boël est parti du principe que le principe de l'entreprise libérée lui plaisait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés sont assez autonomes et s'ils ont des idées, ils peuvent les soumettre à Éric. Donc c'est vrai qu'il y a 3 intra-entreprises qui sont nées par rapport à ça. Il y a eu l'étole, qui fait des étoles en coton biologique. Donc Tonnerre de Belt, qui fait des ceintures. Et il y a aussi l'Indispensac, qui est une marque qui fait des sacs. Donc c'est vrai qu'il y a 3 intra-entreprises au sein des tissages de Charlieu. Quelle est une entreprise qui fait plus du tissu pour l'habillement ?
En ce qui vous concerne, donc Tonnerre de Belt, pour ceux qui auraient oublié un petit peu leur anglais, belt en anglais, ça veut dire ceinture. Et évidemment, voilà. On voit le jeu de mots derrière, Tonnerre de Belt. Vous êtes la patronne en quelque sorte de cette marque, vous cherchez des clients. La fabrication se fait au sein des tissages de Charlieu.
Oui, voilà. En fait, je voulais vraiment un produit 100% made in France, qui soit un peu éthique et responsable. Donc je m'occupe de toute la partie création. Donc toute la partie création est faite donc au tissage de Charlieu, donc tout est tissé sur place. Et après on coud les ceintures en fait dans un ESAT à Saint-Chamond par des personnes handicapées. Il y avait vraiment une portée en fait un peu écologique dans le sens où le tissu est fait sur un parcours de 70 km. Aussi une volonté engagée socialement pour faire travailler les centres adaptés. Et mettre en valeur le tissu jacquard, qui est vraiment la valeur de LTC, en fait, qui est voilà, des tissus, des beaux tissus, et qui sont accessibles à tout le monde.
Comment vous est venue l'idée de créer une et des ceintures, Amélie Gacon ?
La ceinture, c'est vraiment un accessoire que j'ai toujours adoré, donc j'en avais toujours. Et quand j'ai été enceinte, je me suis rendu compte que toutes mes ceintures n'étaient plus du tout valables. Et en fait, j'avais piqué une ceinture à mon mari, qui avait ce principe de boucle amovible sans trou qu'on pouvait ajuster. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et je me suis dit, mais en fait, je fais des tissus toute la journée. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui n'osent pas forcément mettre des motifs ou des couleurs de partout. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de faire des ceintures pour enfants, hommes et femmes, qui puissent vraiment être un peu le détail d'une tenue, avec des gens qui peuvent vraiment oser éventuellement des couleurs ou des motifs sur une ceinture. Et le fait que ce soit qu'il n'y ait pas de trou, en fait, et du coup, il n'y a pas de taille, donc je trouve que c'est assez pratique. Et ça peut, on peut mettre la ceinture aussi bien sur un trench au printemps que sur un pantalon en hiver. C'est une ceinture qui peut nous suivre selon les saisons.
Votre conception aujourd'hui, elle se fait donc plus sur la technique, j'allais dire, puisque vous venez de nous l'expliquer, mais c'est sur le graphisme des tissus.
Tout à fait. En fait, c'est vraiment, moi, je fais vraiment de la partie inspiration, donc tout ce qui m'inspire dans la rue, les magazines, le cinéma. Après, je crée le motif et après, je fais l'armurage, c'est-à-dire vraiment le croisement des fils de chaîne et de trame qui crée le motif sur le métier à tisser. Et après, il y a toute une partie coloration. Donc souvent, un modèle de ceinture est décliné dans 3-4 variantes. Et en fait, nos ceintures sont biface, c'est-à-dire qu'il y a une face avec des motifs et une face sans motif. Et du coup, on peut les retourner selon notre tenue du jour.
Cette ceinture fabriquée au tissage de Charlieu, c'est une production qui reste en petite série ?
Pour l'instant, c'est plutôt des petites séries, oui. Donc après, il y a des marques qui nous ont approchés éventuellement pour faire des partenariats, des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, effectivement, on reste plus avec nos boutiques partenaires et nos sites internet. Donc ça reste plus de la petite série, oui.
Quelle est votre ambition, votre souhait, en tout cas Amélie Gacon, pour la poursuite de cette aventure avec Tonnerre de Belt ?
Ben là, c'est vrai qu'on va passer une vitesse, on va refaire notre site, on va étoffer l'offre. C'est vrai qu'aussi, en fait, avec nos ceintures, on fait aussi des bracelets et des sacs. Donc là, on travaille en fait sur une plus large gamme. Et donc, le but, c'est que tout le monde puisse avoir cette Tonnerre de Belt qui lui correspond.
Avec l'idée de rester toujours au sein des tissages de Charlieu.
Ah ben, bien sûr. Là, c'est notre ADN. En fait, moi, je travaille au tissage de Charlieu depuis des années. Et c'est vraiment une passion que j'ai du textile, de l'industrie, de voir les tissus sortir. Et c'est vraiment une grosse volonté, de faire rayonner en fait ce savoir-faire jacquard par cet accessoire que sont les ceintures Tonnerre de Belt.
Merci Amélie. Si l'on reste dans l'esprit des cadeaux à faire pour Noël, sachez que les ceintures Tonnerre de Belt valent 49 euros. Je serais tentée de dire seulement 49 euros pour un produit de cette qualité et fabriqué entièrement dans le département, à retrouver sur le site tout attaché tonnerredebelt.fr. On poursuit avec notre visage de la Loire de ce mois de décembre.
Loire Mag, visage de la Loire.
Avez-vous déjà fait votre menu pour Noël ou le jour de l'an ? Si ce n'est pas le cas, cette année, si vous remplaciez la traditionnelle dinde par des pigeonneaux. En effet, dans le département de la Loire, ce sont 3 producteurs locaux qui proposent cet élevage pour une viande d'une grande tendreté. Sandrine Gibourou est l'un de ces éleveurs, une vocation qui est née grâce à son conjoint.
En ce qui concerne la passion, c'était surtout celle de mon conjoint. Quant à moi, j'avais des études agricoles puisque j'avais fait un BTS production animale, donc vraiment dans l'agriculture et la biologie animale. Les deux cumulés ont formé vraiment le projet.
Lui exploite une ferme ?
Non, lui, il a des pigeons voyageurs. C'est son propre cheptel de compétition en fait, qui m'a inspirée pour m'installer et qui m'a fait m'interpeller sur le marché du pigeon de chair. Par contre, voilà, en habitant ensemble, je profite de la beauté de l'élevage de pigeons et de l'aspect technique. C'est vraiment la technicité de son cheptel et de l'élevage de pigeons qui est très particulier, qui m'a intéressée et qui a ouvert ma curiosité en me disant que ça pouvait être une vocation technique intéressante. Voilà.
Vous ne devez pas être nombreux dans le domaine, notamment pour l'élevage et la production alimentaire, on va dire.
Oui, on est à peu près 300 en France, 300 éleveurs, et dans la Loire, on est 3.
Vous êtes situé où exactement ?
À Saint-Étienne-le-Molard, entre Feur et Boin, donc vraiment au cœur de la plaine du Forêt.
Ça a son importance en termes d'élevage de ce genre d'oiseaux ?
Oui et non, on peut produire partout en France. Par contre, c'est une estimation personnelle, mais je trouve que la région Auvergne-Rhône-Alpes se prête bien au circuit court. Et de ce fait, on peut avoir des élevages de taille plus familiale, comme je le souhaitais moi. Pour avoir des pigeons en liberté à la maison, j'ai axé mon élevage sur le bien-être animal. Et du coup, quand on veut faire bien, quand on veut mettre à disposition des baignoires, beaucoup d'espace, beaucoup de soins, sur des gros élevages, je pense que c'est pas possible. Alors qu'en Rhône-Alpes, on a le débouché pour rester à taille humaine et pouvoir faire du circuit court et de la vente directe.
Combien de pigeons avez-vous donc dans votre élevage ?
Moi, j'ai 450 couples. La particularité de cet élevage, c'est qu'on raisonne vraiment par couple. Il faut vraiment un mâle et une femelle pour avoir une production. Et ça, c'est complètement inédit dans l'élevage. D'habitude, un mâle s'occupe de plusieurs femelles. C'est cet aspect technique, justement, qui m'a intéressée. Et dans les élevages classiques, on est plutôt entre 3000 et, là j'ai encore lu récemment, 16 000 couples.
16 000 couples.
Après, ils disent que c'est pas pour autant qu'ils sont industriels non plus, hein, mais ça fait quand même une grosse différence avec mon élevage, oui.
900 oiseaux au bout du compte par rapport à 32 000, c'est énorme. Avec cette taille d'élevage, certes en circuit court, donc ça veut dire qu'il y a des débouchés, vous vous en sortez au niveau de la production et de la rentabilité?
Je suis dans une année un peu déjà compliquée à cause du Covid. En fait, pour monter un élevage, le cycle animal est très très long. C'est un élevage en plus marginal, hein, donc on n'a pas beaucoup de vétérinaires, on n'a pas beaucoup de techniciens, on a peu de conseils. En fait, on est vraiment obligé d'apprendre sur le tas, ce qui rend encore plus long l'adaptation technique de l'élevage. Voilà, faut être patient. Cette année aurait dû être bien, ce sera l'année prochaine, voilà.
Alors, je vais peut-être vous choquer un peu, Sandrine, mais pour moi, un pigeon, c'est souvent celui que je croise sur la place Jean Jaurès, par exemple, même s'il n'y en a plus autant qu'avant, et qui font un certain nombre de saletés sur les arbres, déjà. Ceux que vous élevez, ce ne sont pas ceux-là. Et comment vous faites face à ces déjections? Et ça fait partie de la vie et de la nature.
Alors effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes pigeons, même pour comparer aussi avec les voyageurs de mon conjoint, c'est des pigeons qui sont faits pour voler, les miens ils sont faits pour être consommés, donc ils sont héréditairement plus lourds. Voilà, c'est une race qui a été sélectionnée pour la reproductivité et pour le poids à l'abattage, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes. Par contre, ils font effectivement des déjections, comme tous, bien sûr. Là, ça a été dans la conception du bâtiment tout de suite. Nous, on les a mis sur caillebotis pour qu'ils soient au sec, qu'ils soient tout le temps propres, en fait. Donc, les déjections tombent en dessous des grilles, du coup, voilà, ils vivent pas dedans. Le fumier est échangé contre de la paille ou des légumes, ça sert de fertilisant. Donc, pour nous, les déjections, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est très riche pour la fertilisation, donc on s'en sert. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'élevage de pigeons ancestralement, il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ, a démarré dans le Moyen-Orient pour se servir des déjections en tant que fumure.
Alors, autre idée reçue, le pigeon, c'est un oiseau, si on en mange, qui pourrait être un peu dur éventuellement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement, la viande de ce genre de pigeon? La race a un nom?
Oui, donc la race que j'élève, c'est les Myrtis. Myrtis. En fait, pour répondre à votre question, la tendreté, elle vient tout simplement de l'âge du pigeonneau, parce qu'en fait, ce qu'on consomme réellement, c'est le pigeonneau au sevrage. C'est-à-dire, ils ont 4 semaines. Donc, ils n'ont vraiment pas développé de muscles, donc c'est beaucoup plus savoureux et tendre qu'un pigeon.
Les pigeons, autrefois, sur les tables des rois, ça faisait partie des mets qui étaient particulièrement savoureux et recherchés. Depuis, on peut dire pratiquement des dizaines d'années, ça avait un peu disparu des tables des restaurants. Vous constatez que cela revient?
Oui, en fait, je pense que ça a tout simplement été un problème de normes d'abattage et d'élevage, en fait, hein, parce que pour pouvoir consommer du pigeonneau, il fallait qu'il y ait des abattoirs qui soient agréés pour s'en occuper. Ça s'est arrêté un petit peu comme ça. Hein.
Et aujourd'hui, vous constatez que les professionnels vous sollicitent?
Oui. Ah oui. C'est vrai que la viande, je prêche pour ma paroisse, mais la viande est très très fine, ça s'accompagne avec beaucoup 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 de choses. On peut le travailler vraiment de mille et une façons, et que pour les restaurateurs, c'est très bien.
RCF.
Vous êtes toujours dans cette émission Loire Mag, le podcast sur RCF, une émission en partenariat avec le département de la Loire. Vous le savez sûrement, évidemment, du 12 au 22 novembre, il était prévu l'édition 2020, la 30e en l'occurrence, du Festival des Oreilles en Pointe. Il a été annulé étant donné la crise sanitaire. C'était un festival où la francophonie avait vraiment la part belle, avec de grandes voix, parmi lesquelles Kerry James, Maxime Le Forestier, Fémi Cutty ou Jeanne Chéral. Je vous propose juste d'entendre, j'allais dire notre ami, parce qu'on l'entend depuis si longtemps et on ne s'en lasse pas, Maxime Le Forestier, Comme un arbre dans la ville.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines, pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthumes, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville.
Loire Mag, évadez-vous ici.
Oui, parlons encore d'évasion, peut-être plus que jamais, même si aujourd'hui, bien sûr, on peut aller au-delà des 20 kilomètres et que l'on peut bouger, mais tout cela dans le respect des gestes barrières et je suis sûre que vous le vivez comme tous, avec un sentiment de contrainte qui paraît bien opposé à cette idée d'évasion. Et pourtant, il est possible de vivre une féerie en chien de traîneau, c'est ainsi que c'est intitulé dans votre magazine Loire Mag, le podcast, le magazine du département, Balades enneigées. En effet, Jean-Jacques Gibaud propose des balades en traîneau. Il a 40 chiens. Il est basé à Saint-Régis-du-Coin et son association, son entreprise, sa société Kimoujouk, des traces dans la neige, propose donc de belles traversées de forêt. Et Dieu sait si notre département ne manque pas de paysages en la matière. Vous pouvez pour cela aller sur son site kimoujouk.live.fr et vous pouvez aussi continuer de vous évader grâce à la lecture, grâce au CD ou au DVD. Et c'est les bons plans de la médiathèque départementale qui peuvent vous y aider. Pour cela, vous vous rendez sur www.loire-médiathèque.fr. Vous pourrez même choisir des livres que vous commanderez ensuite chez votre libraire, une fois que vous les aurez bien repérés comme étant ceux les plus susceptibles de faire plaisir à vos proches. Voilà, cette émission Loire Mag, le podcast, est terminé. On vous souhaite ici, toute l'équipe de RCF, de bonnes fêtes et on vous dit au mois de janvier. Au revoir, merci de votre fidélité.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.